Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission Au fil des pages se propose de vous faire découvrir quelques trésors de la bibliothèque de l'Institut relatifs à la Chine. Et cela grâce à Mireille Pastoureau, conservateur, directeur de cette bibliothèque. Mireille Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
La bibliothèque de l'Institut est-elle très riche en chinoiserie, si l'on peut dire ?
Ce n'est pas une des plus riches sur la place de Paris. Nous ne rivalisons pas avec la bibliothèque des langues orientales ou celle du musée Guimet ou celle dans la société asiatique dont vous m'avez parlé. Mais néanmoins, c'est une bibliothèque qui a des fonds rares, curieux, originaux et qui sont dignes d'intérêt.
Alors, lesquels, par exemple ? Combien de fonds ?
Alors, c'est vrai, dans les bibliothèques, nous distinguons les fonds qui comportent des documents de toutes sortes et puis après, les documents isolés. Donc, en termes de fonds, nous avons 3 fonds principaux concernant la Chine. Mmh. Un pour le 18e, un pour le 19e, un pour le 20e siècle.
Alors, celui du 18e, quel est le fonds ?
Voilà, c'est celui du ministre Bertin, qui est un ministre qui a été très important, qui est un peu oublié de nos jours, qui était un grand ami de la Chine, grand ami des missionnaires jésuites aussi, et qui en France a eu des fonctions importantes. Il a été ministre de la Marine, tout d'abord il avait été intendant, il a été contrôleur des finances, ministre des Finances, donc de la Marine et ministre des Affaires étrangères. Il était membre de l'Académie des sciences en 1763 et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1772.
Alors nous sommes tout à fait autorisés à parler de monsieur Henri Bertin.
Exactement, voilà. Et alors le pauvre, il est mort en 1792 comme émigré et ses collections très nombreuses, notamment dans le domaine chinois, ont été confisquées et il avait beaucoup de mobilier, d'objets, mais également des livres et des manuscrits qui sont allés à la Bibliothèque nationale, mais à l'Institut. On a donné un fonds très intéressant qu'il avait réuni de ses correspondances avec les pères jésuites qui lui envoyaient beaucoup de lettres et également des mémoires, des rapports. Et c'est un fonds très, très intéressant.
Alors, quel père jésuite écrivait à Monsieur Bertin ?
Eh bien, notamment le père Joseph Amiot, que vous connaissez bien, qui était mathématicien, physicien, correspondant de l'Académie des sciences, interprète de l'empereur. Il faut rappeler à ce propos que la mission jésuite française était à Pékin de toute première importance. Les premiers jésuites installés en Chine étaient les Portugais et ils ont été remplacés ensuite par les Français à l'époque du roi Louis XIV. Colbert et Louis XIV ont noué des liens très étroits avec l'empereur de Chine, qui était un empereur éclairé à l'époque, l'empereur Kangxi. Et les pères jésuites français sont partis en assez grand nombre. Ils ont été à un moment plus de 20 à Pékin. Et c'était des pères d'un très haut niveau scientifique, très haut niveau intellectuel, qui ont fait faire de grands progrès à la Chine. Ils ont réformé le calendrier chinois. Ils ont développé l'artillerie de l'empereur, qui était très heureux, qui en échange leur donnait la liberté d'évangéliser les Chinois.
Mais cela, ça, c'était
voilà, à l'époque de Louis XIV.
Voilà, à l'époque de Louis. Alors, ce père Joseph-Marie Amiot, donc c'était un jésuite, comme vous venez de le dire, mais il ne faut pas le confondre avec le père Lamiot, L-A-M-I-O-T. Moi, j'ai fait les deux parce qu'il y a eu les deux. Et j'ai bien vu que lui, ce père Lamiot était lazariste. Il a également résidé en Chine, mais au XVIIIe siècle ou au début du XIXe. C'est pour ne pas les confondre parce que souvent,
oui,
on les confond.
Voilà. Voilà, on a une date charnière qui est 1773, la suppression de la Compagnie de Jésus. Et à ce moment-là, les jésuites en Chine ont été remplacés par des lazaristes. Et justement, le ministre Bertin s'est beaucoup préoccupé de la succession des jésuites en Chine. Du reste, les jésuites français, malgré la suppression de la compagnie, sont restés à Pékin. Ils ont continué leurs travaux, ils n'ont pas quitté le pays, simplement, ils n'avaient pas le rôle officiel qu'ils avaient auparavant.
Alors, vous avez donc à la bibliothèque plusieurs lettres de ce père Amiot. L'une de ses lettres, j'en ai trouvé la reproduction dans l'ouvrage d'Alain Perfit, donc j'aurais bien aimé la lire. Elle date de... Le père Amiot a écrit en 1789 ses « Mémoires concernant les Chinois », c'est le titre, ça ne fait jamais que 14 volumes, je ne sais pas si vous avez ça.
Nous avons
à
ça,
la bibliothèque,
c'est un
formidable.
Livre très important qui a été très bien diffusé et auquel le ministre Bertin justement a donné des possibilités d'édition. Il a parrainé la publication de ce livre, il était tout à fait partenaire de cette publication. C'est quelque chose de fondamental.
Fondamental, et on voit ce que la quantité d'informations qu'avaient à communiquer les jésuites pour pouvoir écrire 14 volumes, en effet, sur la façon dont ils vivaient là-bas. Alors voilà un petit extrait de la lettre du père Amiot au ministre Bertin. L'objet de la politique de la cour tartaro-chinoise ne tend qu'à contenir le peuple dans la tranquillité. On y fait peu de cas du commerce avec les nations étrangères. On y reçoit des ambassades qu'autant qu'elles peuvent être envisagées comme des marques de soumission. Quand ces ambassades sont admises, ceux qui les composent ont des conducteurs, des interprètes et des gens de service sous la dépendance d'un ministre auquel ils sont tenus de rendre compte. Les ambassadeurs ne peuvent pas dire un mot qui ne soit rapporté, ne peuvent pas faire un pas hors de l'enceinte qui leur est assignée pour demeure, ne peuvent recevoir ni faire de visite que celles qui sont d'étiquette, point de festin, point de spectacle que ceux que le souverain leur donne. On comprend déjà qu'il y avait une certaine ambiance un peu, j'allais dire, autarcique de la Chine qui recevait certes des représentants de l'Occident, mais enfin qui ne s'ouvrait pas véritablement encore à cette époque.
Tout à fait. Il y avait eu une ouverture et la Chine s'était repliée sur elle-même. C'est vrai que l'évangélisation par les religieux français avait été considérablement réprimée.
Oui. Alors, puisqu'on évoque les jésuites, on va tout de même rappeler, Mireille Pastoureau, que François-Xavier, le saint jésuite, est mort au large de la rivière de Canton sans avoir pu y débarquer. Ça, c'était au XVIe siècle.
Exactement.
Que le fameux jésuite italien Matteo ou Matthieu Ricci, lui aussi grand scientifique, notamment cartographe, est reçu à la cour de Pékin en 1601, donc tout début du XVIIe. Il avait compris qu'avec ses map-mondes, ses cadrans, ses sphères et ses horloges, il pénétrerait beaucoup plus facilement dans la société céleste et il avait même réussi à se faire naturaliser chinois. Alors, la relation de son séjour est l'une des choses les plus passionnantes à lire et je le conseille à nos auditeurs puisque son histoire de l'expédition chrétienne au royaume de la Chine de 1582 à 1610 est publiée aux éditions des Clés de Brouwer et c'est une expédition qui a fait connaître Confucius à l'Europe et Copernic à la Chine.
Voilà, et Matteo Ricci est effectivement un personnage de toute première importance parce qu'il a déplacé en quelque sorte le centre de gravité des Européens de Macao, où se trouvaient les Portugais depuis le milieu du XVIe siècle, jusqu'à Pékin. C'est à partir de Matteo Ricci que les religieux s'implantent à Pékin. Et alors, Matteo Ricci a eu une idée absolument géniale parce qu'il a adapté la cartographie qu'il avait connue en Europe, il l'a adaptée pour les Chinois. On venait en Europe, notamment en Flandre, de faire des cartes de toute première qualité par les géographes Ortelius et Mercator. Il a emporté ces cartes qu'il connaissait bien, mais dans ces cartes, évidemment, comme vous les connaissez, nous avons l'Europe au milieu de la carte.
Oui.
Et la Chine est dans la marge. Et alors lui a refait ces cartes, il les a regravées, réimprimées, en mettant la Chine au milieu de la carte. Et c'était absolument génial. L'empereur a vraiment vu que son pays était l'empereur. L'Empire du Milieu, et ça l'a confirmé, et Matteo Ricci a été admis à la cour. Il a entrepris une carte de Chine, il aurait aimé réaliser une carte de Chine, on n'en avait pas encore, on ne connaissait absolument pas. Il a réuni des documents sur place, il a fait des observations, mais il est mort trop tôt, et ce sont les jésuites des générations suivantes qui utiliseront ces matériaux.
Alors rappelons que la présence des jésuites sera tolérée à Pékin au moins jusqu'à la suppression de la Compagnie de Jésus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1773. que les éditions Garnier et les éditions Séguère sont publiées les lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus et que de nombreux colloques de sinologie ont traité de la mission française de Pékin au XVIIIe siècle. Et on devrait aussi, mais nous ne le ferons pas dans le cadre de cette émission, évoquer le père Teilhard de Chardin qui disait « J'ai pour la Chine une grande reconnaissance par son immensité, par l'énormité de ses dimensions. Elle a contribué à élargir ma pensée, à l'élever jusqu'à l'échelle planétaire. » Dixit Teilhard de Chardin. Alors Mireille Pastoureau, dans vos fonds de bibliothèque, un autre fonds avec d'autres trésors ?
Oui, alors un autre fonds, le fonds du sinologue Henri Cordier, qui est mort en 1925, qui était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur à l'École des langues orientales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons non seulement ses documents de travail, la correspondance qu'il a échangée avec des savants, mais nous avons également sa collection, parce qu'il était collectionneur, et il a réuni 450 lettres autographes de personnes très diverses, des orientalistes, des ethnologues, des géographes, des missionnaires, des écrivains. Et parmi ces 450 lettres, il y a des lettres d'un missionnaire lazariste, qui est le père Évariste Huc, enfin quelques-unes, elles ne sont pas très nombreuses, qui est mort en 1860. Ce père Huc a écrit des ouvrages sur la Chine qui, au XIXe siècle, ont eu beaucoup de succès. Donc c'est très intéressant de voir dans ce fonds Cordier des documents autographes d'autres provenances. Il a également deux mémoires du père Amiot, dont nous parlions tout à l'heure, des mémoires originaux qu'il a acquis et qu'il a conservés. Et il a également pris beaucoup de notes dans les archives du ministère de la Marine. Alors c'est très commode d'avoir toutes ces notes rassemblées sur le sujet. Et je crois qu'Alain Perfitte a aussi connu ce fonds.
Utilisé sans doute parce que j'ai trouvé cette référence en effet du père Huc dans l'abondante biographie que cite Alain Perfitte à la fin de ses ouvrages. Mireille Pastoureau, il y a-t-il encore d'autres trésors, des cartes, on peut rêver, des plans, des dessins, des peintures ?
Tout à fait. Alors, dans le domaine de la cartographie, il y a un monument pour la cartographie de la Chine. C'est l'atlas du père Martino Martini au XVIIe siècle, qui a été publié en 1655 aux Pays-Bas. Alors, l'histoire de cet atlas est la suivante. Le père Martini était d'origine italienne, mais il appartenait à la mission portugaise, puisqu'on a vu qu'il y avait les jésuites portugais avant les jésuites français. Donc, il appartenait au groupe des jésuites portugais. Il est allé en Chine, il s'était passionné pour la cartographie, il a réuni une documentation. Mais en revenant au cours d'un voyage où il rentrait en Europe, son navire a été capturé par les Hollandais, puisqu'il y avait la guerre commerciale dans les mers orientales. Il a été capturé par les Hollandais pendant un an. Et alors, je ne sais pas s'il y a eu des tractations ou s'ils lui ont extorqué par la force sa documentation. Peut-être était-il content de trouver un éditeur, parce que les Hollandais étaient les plus grands et meilleurs éditeurs
imprimeurs
de l'époque.
Absolument.
Donc, sa cartographie s'est trouvée publiée à Amsterdam et insérée dans une très grande entreprise, des volumes absolument magnifiques de l'éditeur de cartographie Blau, B-L-A-E, qui est très connu. Et donc cet atlas de Martini, 1655, publié à Amsterdam, est le premier atlas de Chine que nous ayons. Il a été très bien diffusé parce que ses éditeurs faisaient des textes en plusieurs langues. Il y avait des éditions en latin, en néerlandais, en allemand et en français. Des cartes gravées, mais très souvent colorées, illustrées avec des cartouches, des décorations. Et on a donc la Chine là, avec une carte générale et les 15 provinces de la Chine, cartographiées de façon, naturellement, pour notre regard contemporain, sommaire, mais pour l'époque, il faut voir que c'était une découverte, que ce pays était très mystérieux. Et cet atlas a contribué à faire connaître la Chine en Europe.
L'atlas Sinicus, Atlas Sinicus, c'est comme ça que je crois
Exactement,
qu'on l'appelle,
voilà.
De Martino Martini ou Martin de Martini, ça dépend comment on prononce, à l'italienne ou à la française.
Oui.
Voilà, il faut dire en effet que les pères jésuites ont fait d'énormes relevés relevés topographiques de la Chine, parce que c'est cet immense pays.
Voilà, oui. Et vous parliez tout à l'heure des lettres édifiantes et curieuses. Donc ça, c'est une entreprise qui concourt également à la même chose, à faire connaître la Chine. Vous avez rappelé que Ignace de Loyola exigeait de ses missionnaires, dès l'origine, des rapports précis, détaillés sur les régions qu'ils allaient évangéliser, pas seulement la géographie, mais aussi les mœurs, les coutumes locales. Et la Compagnie de Jésus rassemblait ainsi une riche documentation qui pouvait intéresser les savants, mais aussi le grand public. Et de cette documentation ont été publiés des livres, La Chine illustrée en 1667 du père Kircher, et au XVIIIe siècle, ces fameuses publications Lettres édifiantes et curieuses qui ont commencé en 1702, qui étaient des rapports, mais extrêmement vivants, extrêmement intéressants, sur la vie en Chine. Alors les pères chinois, les pères jésuites racontent comment ils s'habillent, puisqu'ils ont adopté la tenue des Chinois, comment ils se coiffent, puisqu'ils avaient le crâne rasé avec une natte. Ils expliquent toutes ces techniques, le papier, la porcelaine. C'est ainsi que l'Europe a découvert le ginseng, l'inoculation de la petite vérole, quantité de choses. Et à partir de 1780, donc la Compagnie de Jésus a été supprimée, mais ces textes continuent d'être publiés, réédités. À partir de 1780, les lettres sont regroupées par région, parce qu'il y avait des lettres pour toutes les missions jésuites du monde. Donc à partir de 1780, on a des volumes spéciaux pour le Levant, l'Amérique, les Indes et la Chine, ce qui est fort intéressant.
Alors, puisque vous parliez du papier, justement, on sait que le papier en Chine, peut-être est-il né en Chine, enfin, je n'oserais pas m'avancer.
C'est ce que l'on dit, oui.
Mais j'ai vu aussi qu'à la bibliothèque de l'Institut, vous m'avez montré un manuscrit coloré qui date du XVIIIe siècle et qui est composé de 27 planches avec des miniatures et qui représente justement les étapes de la fabrication du papier. Alors, comment vous est venu ce manuscrit ?
Alors, c'est une entrée un petit peu particulière. C'est un membre de l'Académie des sciences à l'époque de la Révolution qui s'appelait Nicolas Desmarais, qui l'a donné à la bibliothèque de l'Institut, comme font souvent certains savants pour que la bibliothèque recueille un document qui leur paraît particulièrement intéressant. Ce Nicolas Desmarais était un géologue. Il avait étudié les volcans d'Auvergne, mais il s'intéressait aussi à la papeterie. Il a écrit un ouvrage, Art de la papeterie, en 1789. Il avait donc réuni une documentation. Et ce manuscrit chinois est extrêmement intéressant. On en connaît un deuxième à peu près semblable qui est à la Bibliothèque nationale. Et donc ce manuscrit, comme vous le disiez, décrit la fabrication du papier en Chine. Le papier est né en Chine. Marco Polo, à la fin du XIIIe siècle, quand il est allé en Chine, était tout à fait impressionné par le papier monnaie, notamment. Le papier chinois servait à beaucoup de choses. Au départ, on dit que cette invention est venue du désir de trouver un substitut à la soie, puisqu'on écrivait sur soie. D'ailleurs, l'usage de calligraphier sur soie n'a jamais totalement disparu. Mais en Chine, le papier a donc remplacé la soie pour l'écriture. Le papier a été connu en Occident dès le XIIe siècle, mais il n'était pas apprécié. On lui préférait le parchemin, qui était beaucoup plus solide. Il faut dire que le papier ne résiste pas bien à l'humidité. Donc le papier n'a été utilisé en Occident qu'à partir de l'imprimerie du XVe siècle.
C'était du papier fait avec des bambous. Alors, voilà. C'est ça que j'ai vu sur ces gravures.
Exactement, voilà. Ce sont des végétaux fibreux. Alors dans les gravures qui nous intéressent, ce sont des bambous. Et l'histoire du papier commence à la culture du bambou. Et après on coupe le bambou, on le fait macérer, voilà, on le mouline. Et après on le met sur des formes. Alors ça c'est selon la technique que nous connaissons. Et les feuilles sèches. On les arbale et à la fin, tous les paquets partent en bateau chez les clients.
En tout cas,
un très beau manuscrit du 18e siècle.
Manuscrit et la bibliothèque de l'Institut en a fait éditer une reproduction.
Voilà,
ça,
oui.
C'était un cadeau.
Oui, en 1994, avec l'aide d'un imprimeur mécène qui en avait fait sa carte de vœux. Un peu encombrante, mais très intéressante.
Alors, pour terminer cette émission, Mireille Pastoureau, peut-être encore deux petites indications sur des photographies que vous auriez et aussi sur des gravures.
Alors, pour les photographies, la bibliothèque de l'Institut est très riche en photographies de toutes sortes. En ce qui concerne les voyages, elle conserve notamment la collection du byzantiniste Gustav Schlumberger, qui était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et qui avait une bonne aisance et donc voyageait beaucoup et collectionnait beaucoup. Et il est vrai que dans sa collection, nous avons des photographies de Chine. Alors, je ne suis pas certaine qu'il soit lui-même allé en Chine, mais en tout cas, ce sont des photographies du 19e siècle qu'il a acquises.
Voilà, et puis comme il y a eu l'année dernière, je m'en souviens, en 2005, une exposition au musée Marbottan, je crois, sur les photographies de Gustave Schlumberger, je me souviens y avoir vu aussi des photographies de l'Indochine, beaucoup de photographies
tout
de l'Indochine aussi.
Tout à fait.
Du Cambodge, du Vietnam, de tous ces pays.
Je crois que nous n'avons pas parlé du troisième fonds concernant la Chine que j'avais annoncé. C'est le fonds du 19e siècle. Voilà. Donc pour le 18e, c'est Bertin. Pour le 20e siècle, c'est Henri Cordier. Et pour le 19e siècle, c'est Guillaume Pautier, P-A-U-T-H-I-E-R, qui était traducteur, linguiste, qui est un grand sinologue. Et nous avons non seulement toute sa correspondance, qu'une correspondance savante, mais nous avons également des projets de dictionnaire étymologique qu'il avait entrepris. Dictionnaire chinois-latin-français, dictionnaire chinois-annamite et dictionnaire chinois-cochin-chinois.
On n'aurait pas vraiment pu manquer les dictionnaires du fonds Pautier. Merci Mireille Pastoureau d'avoir évoqué avec nous les richesses de la bibliothèque de l'Institut concernant la Chine cette fois-ci, mais c'est une émission que nous faisons régulièrement sur Canal Académie pour faire découvrir à nos auditeurs les richesses de cette bibliothèque. À bientôt pour une autre émission. Merci.
Au revoir.